Pierre Hébert, bonjour.
Bonjour.
Bien content que vous soyez là parce que c'est un champ d'intérêt que je ne connais pas suffisamment, je pense, dont on ne parle pas suffisamment. Et vous avez décidé, vous, d'offrir un moyen pour, disons, compléter peut-être l'offre de services insuffisante parce que je le disais, apparemment que l'autisme fait partie des parents pauvres de notre système de santé. Vous avez décidé de mettre sur pied Bourgeon en éclat.
Oui, tout à fait.
Peut-être nous expliquer un peu pourquoi d'abord, comment l'idée de mettre l'organisme sur pied est venue, parce que souvent on a des idées, mais de les mettre en application, c'est deux.
Alors, après, je dirais 5 ans de travail aux États-Unis, donc j'ai pratiqué l'ergothérapie pendant 5 ans et en 2000, je suis revenue pour découvrir de longues listes d'attente pour les enfants. Et bon, je ne savais pas trop comment aider. J'ai commencé dans des systèmes scolaires, dans les hôpitaux. Puis je voyais que lorsqu'on me disait, bon, c'est le temps de compléter avec cet enfant-là, c'était fini et tout, mais je n'avais pas l'occasion de continuer, même s'il y en avait de besoin. Et j'en ai parlé, j'ai commencé des cours de développement personnel aussi, entre autres, un qui s'appelle l'expression de soi et leadership. Et c'est dans ce contexte, dans ce cours qui dure 3 mois, on met sur pied un programme ou un projet communautaire. Et je suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec ces listes d'attente. Les enfants m'importent énormément et de
Quel
les
type de
voir.
service ils attendaient?
Alors, ils attendent l'ergothérapie, l'orthophonie, des thérapies et stimulations intensives. Puis on parle d'attente au-delà de 4 ans aujourd'hui. Puis, alors j'en parlais, et c'est comme ça que j'ai mis sur pied un souper bénéfice. C'était une des premières activités. Puis en 2006, j'ai fondé Bourgeon en éclats. Puis la mission est une aide rapide et efficace pour les enfants qui ont différentes déficiences, telles l'autisme, des troubles de l'attention, troubles d'apprentissage et d'autres déficiences ou retards du développement.
Donc, c'est du privé.
C'était du privé jusqu'en 2011.
OK.
Cette année, on est officiellement une organisation sans but lucratif.
Qu'est-ce que ça change?
Ce que ça change, c'est deux choses, en fait, je dirais. Les subventions nous parviennent maintenant par. Je vais vous donner un exemple. Un partenariat qui se crée avec un centre de réadaptation ici à Montréal, où on peut parrainer pour réduire ces listes d'attente-là. Alors, on est en train de créer un groupe d'intervention ou plusieurs groupes d'intervention pour stimuler les enfants plutôt que de les laisser attendre sans stimulation. En même temps, en parallèle, je fais du coaching avec les parents, donc à titre d'ergothérapeute.
Mais
Non
cette
seulement,
reconnaissance-là veut dire
oui.
que vous êtes bonne, là. Si le centre de réadaptation a décidé de se joindre à Bourgeon en éclat, c'est qu'on constate là, que la mission et les objectifs sont atteints.
En fait, on est loin de dire que l'objectif est atteint. C'est une initiative qui est en développement, mais c'est pas encore commencé. Donc, c'est un projet qui est mis sur pied, qui est très prometteur, mais je peux pas dire que c'est conclu. On est vraiment en train d'élaborer le plan, mais comme je vous dis, on s'en va dans la bonne direction. Il y a d'autres initiatives qui partent des hôpitaux, des centres de la santé, qui, eux, essaient de réduire les listes d'attente aussi par l'entremise de programmes précoces, donc des stimulations précoces, même avant le diagnostic. Parce que jusqu'à date, il fallait attendre une identification avant même d'être mis sur une seconde liste d'attente pour une intervention thérapeutique. Puis aujourd'hui, ils sont en train justement de réévaluer cette situation et permettant aux enfants d'attendre, bon, 2 ans maintenant, donc c'est peut-être moins pire, mais c'est pas généralisé. On parle c'est des projets pilotes, donc on parle peut-être d'une dizaine d'enfants Puis il y a des centaines d'enfants qui attendent.
C'est vrai que c'est une course contre la montre avec des enfants autistes. Si on les prend de bonne heure, vraiment, on leur donne un gros avantage pour le reste de leur vie?
Mais la recherche démontre très clairement que on est en mesure de les identifier avec certitude à l'âge de 12 mois. Toutefois, ici à Montréal, dû à la structuration présente, on n'arrive pas à les diagnostiquer si jeunes. Les temps d'attente font en sorte que les enfants sont identifiés seulement à 2, 3, 4, même 5 ans.
Ouais.
Et puis, la recherche aussi démontre que c'est entre l'âge de 12 et 18 mois que ça fait la plus grande différence. C'est là qu'on est le plus efficace dans notre intervention précoce. Donc, c'est comme si on manque le bateau. Puis pourquoi est-ce que c'est si important d'intervenir si jeune? C'est parce que le cerveau, quand on est nourrisson, il est très plastique. C'est là que le cerveau est le plus malléable. Et les changements de comportement, les changements de développement sont les plus faciles. Alors, ils se produisent naturellement et facilement. Puis quand on vient intervenir avec une stimulation, une thérapie telle l'ergothérapie, l'orthophonie et des stimulations intensives précises, ça fait toute une différence chez ces enfants-là. Puis j'ai plusieurs histoires que je peux vous raconter aussi comme exemple de comment ça a complètement transformé la physiologie de l'enfant.
Ouais.
Puis, ça n'enlève pas le diagnostic. Il y en a qui diraient oui, ça l'a enlevé, mais en fait, non. L'autisme, c'est quelque chose qui dure à vie. Toutefois, les symptômes semblent partir.
Parlant de transformation, Michel Hébert, j'ai l'impression que le monde de l'autisme, du moins notre compréhension québécoise du monde de l'autisme, a augmenté de façon exponentielle. C'est peut-être pourquoi, d'ailleurs, les budgets n'ont pas suivi. Il y a de plus en plus de diagnostics, il y a de plus en plus de solutions apportées. On a le développement, les TED. Qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'on est, selon vous, dans une bonne route ou parce que j'ai l'impression que maintenant, là, on s'en va partout avec il y a peut-être 20 ans, était assez, disons, simple. Alors, on dirait qu'il y avait comme deux, trois catégories d'autistes il y a une vingtaine d'années. Et là, on a compris comment les aider. On a compris que c'est beaucoup plus complexe qu'on le présumait. Mais, comme vous le dites, les budgets et l'État n'ont pas suivi. Est-ce que le médecin a été plus vite que la bureaucratie? C'est ça qui est arrivé?
J'entends plusieurs aspects à ce que vous apportez. Le nombre d'enfants n'a pas nécessairement augmenté. Oui, c'est comme si les chiffres ont augmenté, puis on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment une épidémie? En fait, la médiatisation de l'autisme a fait en sorte que de plus en plus les parents sont à l'affût, sont plus connaisseurs de « Hey, ça ressemble à mon enfant, on en parle au pédiatre ». Le pédiatre est aussi beaucoup plus sensibilisé à l'autisme et ainsi identifie les enfants un petit peu plus rapidement. Puis l'autre chose, c'est que rendu à l'âge scolaire, souvent les enfants n'ont même pas été vus. Puis ça fait que les chiffres ou le nombre d'enfants qui sont identifiés à l'école est plus grand. Puis je dirais que c'est pas nécessairement une question de budget. C'est plutôt, selon moi, une question de structure du système de santé.
Mais est-ce que ça se peut, et personne ne va jamais l'admettre, mais qu'à un moment donné, on s'est dit, il n'y a pas grand-chose à faire avec ces jeunes-là, on va investir dans une catégorie ou une clientèle ou une couche de la population qui peut peut-être aller plus loin grâce aux soins qu'on va leur apporter. Ça se peut-tu qu'on ait eu cette compréhension-là trop longtemps?
Ça serait une première pour moi.
Je
verrais beaucoup plus le... Écoute, je pense que c'est beaucoup plus une prise de conscience au niveau de la communauté.
Ouais.
Et au contraire, il y a énormément de potentiel à faire. C'est encore une fois, selon moi, c'est une question de restructurer de créer en fait des partenariats entre les hôpitaux, les centres de réadaptation qui n'arrivent pas tout seuls, mais de reconnaître que dans la communauté, il y a des experts tels que nous, chez Bourgeon en éclats, puis beaucoup d'autres ergothérapeutes, orthophonistes, orthopédagogues qui sont spécialisés avec cette clientèle, et de faire des collaborations beaucoup plus serrées pour éliminer ces listes d'attente. Ouais. Je pense pas que c'est une question de sous, ni de manque de connaissances, ni de potentiel chez l'enfant. Je pensais vraiment plutôt, nous, à nous repositionner vis-à-vis nos ressources et de collaborer, de mieux créer des partenariats.
Parce que je regardais certains chiffres comparant, bon, l'Ontario avec le Québec et le 30-40 millions qu'on investit par rapport à bien au-delà des 100 millions là-bas. Puis tu te dis, comment se fait-il qu'on a cette compréhension-là? Si un parent vous appelle, et dit, moi, j'ai besoin d'aide, je suis tanné, mon enfant vieillit, il a besoin de services. Comment ça se passe avec Bourgeon en éclats?
Nous autres, c'est sûr qu'on préconise l'intervention précoce. Donc, c'est à partir de la naissance qu'on invite les familles à nous approcher. On voit les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis oui, ça nous arrive souvent, des enfants des parents qui nous appellent concernant un enfant de 8 ans
avec du retard, là.
Qui vient d'avoir le diagnostic à l'âge de 6 ans, par exemple, puis qui sont complètement découragés. Tout le monde a des listes d'attente. Et quand je leur dis que nous autres, on commence les services en moins de 4 semaines, ils disent « Mais mon Dieu, ça se peut pas, est-ce que j'ai bien compris? » Et c'est tout à fait ça. C'est ma promesse. Donc, la mission de Bourgeon en éclats, c'est de l'aide rapide et efficace. Puis, non seulement est-ce qu'on les dessert rapidement, qu'on commence les services rapidement, mais aussi on atteint un minimum de 90 % des objectifs que nous fixons avec les familles, que ce soit dans le domaine de la motricité, neurosensorielle, socialisation, communication, les tâches de la vie quotidienne. C'est mon engagement.
Avez-vous deux listes, à savoir, bon, vous le dites, c'est maintenant sans but lucratif. En même temps, j'imagine que là, cette liste-là est pas mal plus importante. Comment ça fonctionne? Et il nous reste peu de temps.
Malheureusement, merci. Malheureusement, la réalité fait en sorte que les finances, je disais que c'était pas une question de budget gouvernemental, mais puis plutôt d'une restructuration, parce que oui, il y a toujours des familles qui n'arrivent pas. Ils n'ont pas d'assurance médicale. Ils ont déjà eu tout le maximum de subventions de fondations pour les enfants. Puis ça fait en sorte que je pense que malheureusement, oui, il y a deux listes. Mm-hmm. Mais je fais tout mon possible. Donc, on invite les commanditaires les individus même. Regardez, si on parraine un enfant à 40 $ par mois, on aide un enfant à avoir de la thérapie.
Ça, j'adore ça. Donc, un auditeur pourrait dire, moi, je parraine un enfant pour que celui-ci, que je ne connais pas, obtienne les services dont il a besoin.
Oui.
Je trouve ça très, très concret. Vous êtes sur l'île?
Oui, on se déplace. Nous autres, on se rend dans le milieu de l'enfant, donc à domicile, à la maison et à l'école. Et puis lorsqu'on offre des groupes ou des clubs d'intervention, c'est dans la région de l'enfant.
Oui. On fait quoi pour vous joindre?
Deux façons, soit par courriel à info@bourgeonenéclats, alors bourgeon au pluriel, éclat au singulier, .org, sinon 514-671-ABCD.
Et ceux qui nous écoutaient en direct, donnez-nous 3 ou 4 heures, mais sinon pour les autres, là, vous allez au www.canalm.ca, il y aura les liens sous l'entrevue que vous venez peut-être d'écouter via le web. Michel Hébert, merci beaucoup, bonne continuité. Je rappelle que vous êtes donc l'inspiration et la fondatrice derrière Bourgeon en éclat. L'avez-vous fini, votre doctorat?
L'an prochain.
L'an prochain. Bon courage.
Merci.